fabrique politique. Bonjour, il est 13h sur Campus Grenoble, bienvenue dans la fabrique politique. Aujourd'hui, dans notre exploration des rouages de la République, on se penche sur les syndicats. À première vue, et même si certaines s'en sortent bien mieux que d'autres, les organisations syndicales n'ont pas le vent en poupe ces temps-ci. D'après une étude de 2017, si la participation aux activités syndicales est restée stable dans les années 80 et 90, elle a eu tendance à chuter depuis, en se resserrant sur les plus actifs des syndicalistes et souvent ceux qui étaient déjà impliqués avant. Pire, le gouvernement actuel a démarré son mandat en remettant globalement en question la place de ce qu'on appelle les corps intermédiaires dans l'équilibre démocratique, en reléguant les organisations syndicales, mais aussi les grandes associations, à un simple rôle de consultation ou de contestation. Pourtant, les syndicats sont là, présents dans les entreprises, présents dans le service public, dans les discussions quotidiennes entre salariés et encadrants, présents dans la rue, présents dans les négociations avec le patronat, et en cette rentrée chaotique, le gouvernement semble retrouver le sens de la co-construction avec eux, comme s'il redécouvrait soudain le sens de ces mouvements installés dans le paysage républicain depuis des siècles et officiellement depuis la loi de 1884. Alors comment ça marche? Qui est syndicaliste aujourd'hui? Que fait-il de ses journées? Comment s'organise un syndicat, depuis la petite entreprise iséroise jusqu'aux grandes centrales parisiennes? Comment œuvre-t-il au cœur de la démocratie? En guise d'introduction, je vous propose d'écouter la voix d'un grand homme, une figure du syndicalisme, François Chérec, qui manque cruellement à tous ceux qui l'ont connu.
Je reviens à ma question quand même. Est-ce que la loi de modernisation sociale aurait changé quelque chose?
Parce
que par exemple, à Métal Europe, il nous écoute.
La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu deux plans sociaux déjà.
François Chérec, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas?
Je crois que ce qu'on n'a pas besoin, c'est une polémique sur ce sujet de l'emploi tel qu'il s'installe ici. Inévitablement, comme vous m'avez invité avec des hommes politiques de droite et de gauche, je dis, je vais me retrouver dans la position de faire le juge, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison. Le sujet n'est pas là. Je peux vous répondre directement. La loi de modernisation sociale n'y aurait rien fait dans le cas de Métal Europe ou de Palace Parfum, parce que dans un cas, Palace Parfum, on est dans de la délinquance patronale,
exact.
Et quelle que soit la loi, ils ne respectent pas. Et de l'autre côté, on a une insuffisance de la loi au niveau européen, et on peut faire toutes les lois qu'on veut en France. S'il y a des vides juridiques au niveau européen ou mondial, ça n'y change rien. Le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est que, et c'est un reproche que je fais à tous les hommes politiques, c'est que le chômage augmente en France depuis mai 2001. Donc le chômage, il n'augmente pas depuis, malheureusement, le problème de Métal Europe. Et qu'à chaque fois qu'on a des plans sociaux, je dirais, médiatisés, eh ben, les hommes politiques crient au scandale, se précipitent, proposent des lois ou les suppriment. Là, on a le gouvernement qui nous propose une nouvelle table ronde sur l'emploi, alors qu'on a besoin en France, d'une façon définitive, de travailler sur les anticipations, c'est-à-dire comment on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que le jour où il y a une difficulté dans une entreprise, il y aura toujours des difficultés dans les entreprises, on peut anticiper, par la formation, la reconversion, pour éviter, pour que chacun ait une solution face à l'emploi. Et je conclurai simplement en disant, les plans sociaux dont on parle, ils sont dramatiques, mais c'est 15% des licenciements économiques, et le grand reproche qu'on a fait à la loi de modernisation sociale, c'est qu'elle a fait la passe totale sur 85% des licenciements économiques qui sont dans les petites entreprises. Donc on voit bien que le débat qui s'installe aujourd'hui entre les politiques n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
Un son qui illustre à merveille les relations intenses et complexes que peuvent entretenir les représentants des principaux syndicats avec les femmes et les hommes politiques de notre pays. Mais derrière les plateaux télé, comment ça se passe? Qui parle à qui? Qui voit qui? Qui appelle qui? Qui influence qui? Qui gagne à la fin? On va tenter de vous aider à y voir plus clair sur cet univers complexe du syndicalisme avec notre invité, Laurent Berger, le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail, plus connu sous le nom de CFDT. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'être sur Radio Campus aujourd'hui, d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi un syndicat? Ou plutôt, c'est qui?
Ben, un syndicat, ce sont des salariés qui décident, entre eux, de s'organiser, de faire valoir leurs droits individuels et collectifs. Donc, c'est comme ça que sont nés les syndicats, à partir d'un monde des mutuelles, notamment, mais aussi d'une volonté par branche professionnelle de dire ben, il faut un contre-pouvoir dans les entreprises pour que les droits des travailleurs soient respectés.
Donc c'est tout de suite quelque chose de collectif en fait, c'est né c'est pas des individus, c'est pas, il n'y a pas un inventeur du syndicalisme, vous dites c'est des collectifs qui se sont créés comme ça dans les organisations.
Oui, il y a évidemment des figures, à partir des bourses du travail notamment, et de Fernand Pelloutier, mais il y a aussi le syndicalisme authentique, comme on dit, c'est-à-dire c'est lorsque, pour des raisons de défense collective, je pense au CANU notamment, ouais. À Lyon, pas loin de chez vous, eh bien, ils ont décidé de s'organiser pour combattre soit un diktat patronal, soit pour faire valoir leurs droits, acquérir de nouveaux droits, notamment la protection sociale, par exemple.
Et alors aujourd'hui, comment on devient représentant syndical? Comment ça se passe? D'abord, comment on choisit son syndicat? Et puis, comment on prend sa place dedans?
Le choix du syndicat, il repose sur deux grands axes. Le premier, c'est quand même, on doit partager ses valeurs. La CFDT, elle est porteuse d'un certain nombre de valeurs humanistes, de justice sociale, mais aussi d'émancipation des salariés, c'est-à-dire leur capacité à décider par eux-mêmes des choix qui les concernent, de démocratie, enfin voilà. Et ça, c'est le premier axe, parce qu'on se sent proche d'une organisation syndicale. Le deuxième, c'est souvent affaire de rencontre, comme dans beaucoup de choses dans la vie. D'avoir un représentant dans son entreprise qui a telle étiquette syndicale et qui défend bien ses collègues, est une belle personne, porte des belles choses. C'est comme ça qu'on choisit son syndicat.
C'est une source d'inspiration, finalement.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est comme on choisit une association quand on milite dans une association. C'est un peu parce qu'on a fait des rencontres et je trouve que c'est plutôt heureux. Ensuite, comment on devient représentant syndical? Des fois, c'est parce qu'on est sollicité à devenir dans son entreprise, être délégué du personnel, à être représentant du personnel. Et puis parfois, c'est parce que ça s'impose un peu. Moi, j'ai commencé parce qu'on m'a demandé, parce qu'il y avait une élection de représentant du personnel, je trouvais que c'était idiot de le faire sans étiquette syndicale, qu'il fallait porter des idées. Et puis, je suis devenu délégué du personnel dans ma petite entreprise de moins de 10 personnes et avec une autre collègue. Et ça a commencé comme ça. Je crois que c'est beaucoup à faire de sollicitations ou d'opportunités pour rendre service, quoi.
Et alors, ça veut dire qu'effectivement, il y a une petite nuance à apporter auprès de nos auditeurs entre délégué du personnel et représentant syndical. C'est-à-dire qu'il y a des organisations, des entreprises où il y a des délégués du personnel qui sont prévus par la loi sans forcément d'étiquette syndicale, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. On n'est pas obligé, quand on veut être représentant du personnel, d'aller dans une organisation syndicale, mais je tiens tout de suite à dire que c'est dommage parce que on se prive on se prive d'une force collective, on se prive d'un soutien en termes de formation, d'accompagnement.
D'accord. Alors, les grandes missions d'un représentant syndical dans une entreprise ou un service public, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait d'histoire, mais aujourd'hui, là, en 2018, un représentant syndical, sa journée, sa mission principale ou ses missions principales, vous diriez que ça ressemble à quoi?
D'abord, dans une entreprise ou une administration, très souvent, il est dans son poste de travail. Et donc il a des heures de délégation selon les mandats, ça peut être 10 heures, 20 heures par mois selon le mandat qu'il exerce. Et ses grandes missions, c'est écouter les salariés sur ce que sont leurs problématiques, leurs préoccupations, leurs difficultés ou leurs aspirations, et puis les porter auprès de l'employeur. Alors, auprès de l'employeur, on le porte dans des réunions qui sont prévues pour, ça s'appelle les instances représentatives du personnel, où il y a un certain nombre d'ordres du jour où on parle de la situation concrète des salariés. Mais ça dépasse cette défense de la situation des salariés. De plus en plus, les représentants des salariés, ils ont aussi à peser sur la stratégie de l'entreprise, sur les choix, y compris économiques, qu'elle fait.
Pas que sur les individus, aussi, finalement, c'est sur le collectif, sur la globalité, quoi.
Oui, et puis aussi sur l'organisation du travail. C'est tout le débat qui a lieu aujourd'hui sur le partage du pouvoir, comme moi j'aime bien le dire, dans l'entreprise. Je crois que l'entreprise, c'est à la fois du capital, on le sait, il est nécessaire pour faire fonctionner les entreprises, mais c'est aussi du travail. Et aujourd'hui, dans la gouvernance d'entreprise, dans les choix qui sont faits, c'est trop souvent sous le seul prisme de la rentabilité du capital. Une des parties constituantes, la deuxième partie constituante de l'entreprise, c'est le travail. Et donc, il est normal que les travailleurs participent plus aux choix qui les concernent.
D'accord. Si on passe maintenant à l'organisation de la structure syndicale en tant que telle, comment ça marche? Il y a des zones géographiques, par exemple à la CFDT, il y a des CFDT régionales, départementales, ou alors c'est par filière professionnelle, c'est les deux. Parce que ça, c'est vrai que c'est difficile de s'y repérer dans cette univers.
Si on continue parce que c'est le bon angle de partir du lieu de travail, que ce soit l'entreprise, l'administration, nous on a d'abord des sections syndicales, c'est-à-dire c'est tous les adhérents CFDT d'une entreprise qui se regroupe et qui discute de ce qu'ils veulent faire, les actions qu'ils veulent mener, comment ils veulent s'organiser, etc. Ensuite, ces sections syndicales, qui sont par exemple dans le secteur de la santé, pour prendre un exemple, elles se retrouvent d'un niveau territorial dans un syndicat santé, CFDT.
Donc c'est un mix territorial et thématique, c'est-à-dire que
c'est ça, là, vous dites syndicat santé, syndicat santé sociaux de l'Isère.
D'accord. Okay. Ouais.
Et ensuite, ce syndicat, il est rattaché à une fédération professionnelle, la Fédération Santé Sociaux, d'un niveau national, donc qui organise toute la secteur professionnel concerné, et d'une union régionale, qui est l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour cet exemple-là. Voilà. Et ces structures, ces fédérations et ces unions régionales, ben, elles sont membres de la confédération qui regroupe le tout. Mais nous, notre structuration, elle part d'abord de l'adhérent et de la section syndicale.
D'accord. Et donc, ces fédérations, ces unions sont regroupées dans une confédération, donc c'est le cas de la CFDT. Est-ce que c'est un peu pareil dans les autres grands syndicats qu'on connaît, ou chacun a une organisation très différente?
Il y a des nuances, mais globalement, les grandes confédérations qu'on connaît, la CGT, Force ouvrière et d'autres, ce sont des confédérations, c'est-à-dire il y a une forme d'organisation fédérale.
D'accord.
Et nous, on tient beaucoup à ce fédéralisme.
D'accord.
C'est un garant de la démocratie.
Oui, tout à fait, de partir du terrain. Et alors, là-dedans, c'est toujours des salariés qui ont le droit de prendre une partie sur leur temps de travail, ou c'est là carrément des salariés de la Confédération, c'est des bénévoles, c'est un mélange de tout ça?
Oui, c'est un mélange de tout ça. C'est d'abord, quand on est militant syndical, on est militant. Donc, il y a une part de don de son temps. Mmh. Mais on a aussi du temps prévu pour le faire. Dans l'entreprise, c'est le temps de délégation, comme on appelle ça, c'est-à-dire du temps qui est alloué aux représentants du personnel. Et ensuite, c'est soit des militants qui sont détachés de leur secteur professionnel pour opérer un certain nombre de missions, mais dans ces cas-là, dans leur secteur professionnel, soit la CFDT, elle a des cotisations, donc elle a de l'argent qui rentre de ses adhérents et elle paye une partie de ses permanents.
D'accord. Et ceux qui décident de consacrer de leur temps gratuitement, j'allais dire, je vois bien, ceux qui décident de prendre de plus en plus de leur temps de travail classique pour s'engager dans le militantisme ou dans le syndicalisme, qu'est-ce qui se passe pour leur carrière? C'est des gens qui, du coup, vont petit à petit s'éloigner de leur boulot d'origine, ou il y a plutôt des allers-retours? Qu'est-ce que vous constatez? C'est des séquences dans la vie d'un salarié de faire du syndicalisme, ou c'est plutôt un engagement qui va jusqu'à la retraite?
Non, nous, on ne souhaite pas que ça aille forcément jusqu'à la retraite. On souhaite qu'il puisse y avoir des allers-retours. Après, il faut constater que dans un certain nombre d'entreprises, c'est difficile de faire reconnaître les acquis qu'on a eus parce qu'on a occupé une responsabilité, qu'on a fait des choses. Moi, j'ai coutume de dire que la plus belle école que j'ai fréquentée, c'est l'école du syndicalisme, où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soit quand on est dans une entreprise, on peut retourner à son poste. Et dans ce cas, nous, on travaille beaucoup sur l'accompagnement des militants qui retournent à leur poste de travail, parce que il faut qu'ils puissent être valorisés au sens reconnu professionnellement dans un métier qu'ils poursuivent ou une réorientation. Là, souvent, de temps en temps, il y a des problèmes dans certaines entreprises. Et ça. Et ce sera encore plus vrai demain, parce que nous, on s'est battu pour que la durée de mandat soit limitée à 3 mandats.
D'accord.
Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait du renouvellement.
Ah oui, pour ça les veut dire autres, qu'il faut retrouver une place derrière. Quand on a fait, admettons, ces 3 mandats, il faut retrouver un terrain d'atterrissage.
Et puis pour les autres, lorsqu'ils ont occupé une responsabilité dans un territoire, dans une profession, et qu'ils ont quitté leur travail pour le faire, donc ils sont devenus salariés, ceux-là, ils ont aussi une durée de mandat, donc il faut repartir à un moment donné, et il faut retrouver du travail. Là aussi, on les accompagne, mais ce n'est pas si simple.
C'est l'accompagnement de la CFDT, bien sûr. Et vous, alors, on va prendre votre exemple un instant. En tant que secrétaire général, j'imagine que c'est pareil. Vous avez un mandat qui n'est pas forcément à vie. Comment ça se passe pour vous? Éventuellement, qu'est-ce qui se passera après ce mandat?
Je viens du secteur privé. Oui. Lorsque j'ai pris des responsabilités à la CFDT, au début, c'était pour faire à mi-temps. Donc, j'ai essayé de le faire à mi-temps avec mon travail. Et puis, en fait, ce n'était pas très tenable. Donc, j'ai démissionné. Donc, le jour où j'arrête, j'ai un mandat de 4 ans qui a été renouvelable. Mais nous, on a une limite de 10 ans maximum. À la fin, il faudra que je cherche du travail ailleurs. Ce n'est pas un problème en soi. Mais bon, voilà, c'est une préoccupation que beaucoup, beaucoup de militants ont quoi. Mais heureusement que ce n'est pas à vie. Hein. Heureusement qu'on n'apprend pas.
Oui, bien sûr. Mais ça pose l'enjeu de l'accompagnement vers la reconversion. Quoi,
c'est énorme ce travail-là. Cet enjeu-là, il est énorme, y compris pour donner goût à l'engagement. Hein, parce que ce que je n'ai peut-être pas suffisamment dit, c'est que c'est être engagé syndicalement, c'est aussi de la convivialité, c'est aussi de la richesse partagée avec d'autres en termes de relations humaines, de conduite de projet. Et la CFDT, ce n'est pas simplement sur le lieu de travail, c'est aussi sur toutes les questions sociales et sociétales.
C'est ce qu'on va voir effectivement dans un instant, l'engagement syndical au-delà de l'entreprise. Merci Laurent Berger. On fait juste une petite pause avant d'aborder ces sujets. On écoute Renaud dans la Fabrique politique. On écoute « Je suis une bande de jeunes ».
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes. Je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je débarque au bistrot du coin, dit qu'un mec veut m'agresser. Ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux. Ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Vous êtes sur Radio Campus, c'est la Fabrique politique. Aujourd'hui, on parle du fonctionnement et de la place des syndicats dans le paysage politique français. Et on a la chance d'avoir Laurent Berger au téléphone, le secrétaire général de la CFDT. Laurent Berger, on va parler maintenant, on l'a évoqué il y a un instant, au-delà des entreprises et des administrations dans lesquelles travaillent au quotidien les représentants syndicaux. On va parler maintenant syndicats et politique. Alors d'abord, pour lever une ambiguïté, pour commencer, est-ce que les syndicats ont une couleur ou des couleurs politiques ?
Non. Mais il faut être juste là-dessus pour expliquer que ça n'a pas toujours été le cas. Souvent, les syndicats, ils ont eu en France, et c'est vrai aussi en Europe, un lien avec un parti politique ou des partis politiques. Mm-hmm. En ce qui concerne la CFDT, depuis 83 maintenant, la CFDT ne donne plus de consignes. D'accord. Elle n'est plus. Il n'y a jamais eu de lien organique, structurel avec un parti politique, mais il y a eu des relations fortes avec le Parti Socialiste à un moment donné. Depuis 1983, il n'y a plus de consigne de vote. Les adhérents au CFDT ne sont pas guidés dans leur choix, si ce n'est le rejet de l'extrême droite. Et pour le reste, eh bien, ils se comportent électoralement comme ils l'entendent. La CFDT, elle a décidé d'être indépendante parce que pour se recentrer sur sa mission première qui est la vie au travail et la situation des travailleurs. Ce qui ne l'empêche pas d'intervenir dans les choix politiques en disant ce que nous pensons.
Bien sûr. Alors justement, on commence par le côté officiel. On vous voit souvent participer à des cycles de négociations sur les retraites, l'assurance chômage, le droit du travail. Vous et puis évidemment les autres représentants syndicaux et patronaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter juste en quelques mots comment ça se passe une négociation type ? C'est quoi les grandes étapes ? Ça se passe où ? Il y a qui ? Comment ça se passe ?
Il faut distinguer là où il y a le gouvernement dans la boucle ou là où il n'est pas présent. Je m'explique. Les concertations avec le gouvernement, ça se passe souvent sur tel ou tel sujet. Par exemple, la question des retraites aujourd'hui, le sujet est sur la table. Il y a des réunions de travail où chacun doit amener ses propositions. Et c'est des fois un peu ce dont souffre le syndicalisme français, d'être dans l'incapacité de faire des propositions. Nous, on essaye d'en faire en toutes circonstances et d'apporter nos propositions. Par exemple, sur les retraites, on a fait une grande enquête et on apporte des revendications. Ensuite, le gouvernement fait des allers-retours avec les uns et les autres. Il y a souvent des réunions collectives pour faire le point. Et puis, le gouvernement décide. Et après, les organisations syndicales et patronales, bien, elles se positionnent en fonction de la décision prise. Ça, c'est, on n'a pas d'accord à la fin. C'est une position prise par un gouvernement qui est élu, enfin, qui est légitime pour le faire. Voilà. Et puis la négociation, c'est quand on se retrouve juste les syndicats et le patronat, par exemple sur l'assurance chômage, sur la qualité du travail, où là on décide de mener des négociations pour faire changer soit une législation, soit des règles, et faire évoluer les choses. Et dans ce cas, ça se présente souvent avec un premier tour de table sur chacun porte sa vision, son ambition sur le sujet, par exemple sur l'assurance chômage, voilà. Et puis après, on essaie de rapprocher les points de vue.
Et dans ces négociations-là, il n'y a pas de représentant des pouvoirs publics.
Et là, il n'y a pas de représentant des pouvoirs publics. Il y a une forme d'autonomie. Je ne dis pas que le gouvernement ne suit pas ça d'un œil avisé, mais il n'y a pas de représentant des pouvoirs publics. Et donc, c'est la qualité du dialogue, comme ça se passe finalement dans les entreprises.
Ah oui.
Dans les entreprises, on essaie de trouver les compromis pour améliorer la situation des salariés, et l'entreprise essaye de faire en sorte que sa vision soit aussi entendue. Donc c'est la recherche du compromis, mais qui fait la grandeur de la démocratie sociale.
Et alors, une fois que, en admettant que le compromis soit trouvé, là, j'imagine que les pouvoirs publics interviennent pour mettre en œuvre ce que vous avez proposé de manière consensuelle.
Oui, c'est ça, c'est pour mettre en œuvre dans la loi, transposer dans la loi ce qu'on a pu trouver d'un point de vue d'un compromis. J'insiste là-dessus, c'est plus un compromis qu'un consensus. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des points sur lesquels on a obtenu gain de cause et des points où on n'a pas obtenu gain de cause. Et après, c'est chaque organisation qui se positionne si elle signe
ou
pas.
Ah oui, c'est ça, si elle signe ou pas l'accord, effectivement.
Et le gouvernement, après, intervient pour transposer légalement le texte.
D'accord. Alors, du côté plus discret maintenant pour nos auditeurs, j'imagine qu'en dehors de ces cycles de discussion avec le gouvernement d'un côté et de négociations entre syndicats, j'imagine qu'il y a des contacts entre syndicats et politiques en dehors de ces négociations officielles. Est-ce que c'est le cas? À quelle fréquence ou quelle forme? C'est quoi? C'est des déjeuners, des dîners, des réunions, on se demande un peu quel est le tissu quotidien de ces relations que vous et puis vos collègues, vous pouvez entretenir avec un ministre, avec le gouvernement, etc.
Oui, en dehors de toutes les réunions médiatiques, il y a même entre organisations syndicales, entre syndicats, avec les organisations patronales, mais aussi avec le gouvernement, des réunions ou des rencontres pour travailler. Moi, j'essaye au maximum de faire en sorte que ce soit pas le soir, pour une raison simple, c'est que je considère que tout ça ne relève pas de l'anormal.
Ouais.
Et c'est pas normal de se voir que dans une démocratie, les différents acteurs se confrontent et se voient pour essayer de trouver des solutions aux problèmes posés. Mais par contre, c'est bien, on y va dans des réunions de travail. Donc la fréquence, c'est difficile à dire, mais que ce soit par téléphone ou dans les réunions, c'est pas rare dans le mois qu'on ait une réunion avec la ministre du Travail, c'est même plutôt le rythme, et puis des échanges réguliers par téléphone avec les différents ministères.
Surtout le ministère du Travail ou c'est
non, les solidarités, la cohésion sociale ou la santé, le transport, la transition écologique, l'économie parce que on est concerné sur la question industrielle mais aussi sur la question fiscale où on a fait valoir notre vision de la solidarité, l'agriculture parce qu'on est très implanté dans ce ministère, l'outre-mer parce que la CFDT est très présente en outre-mer. Voilà, c'est tout. À chaque fois, nous, on a en face de nous des interlocuteurs qu'on n'a pas choisis, c'est le peuple qui les a choisis dans l'élection. C'est un peu comme un salarié, un représentant syndical dans une entreprise, il n'a pas choisi son patron. Mais par contre, s'il discute pas avec, il fera rien avancer. Donc il faut discuter, il faut essayer de pousser ses propositions. Et puis, Et puis contester aussi, hein, évidemment, s'engueuler parfois pour dire des choses un peu franchement pour, quand on n'est pas d'accord.
Et avec les parlementaires, il y a des contacts aussi où, par exemple, vous allez jusqu'à proposer des amendements aux lois. C'est un travail que font les syndicats.
Oui, nous on le fait. On a toujours, au début, on a été réticents pour vous dire les choses là-dessus, parce qu'on se considérait que c'était pas notre rôle. Et en fait, on l'a fait parce que c'est pas du lobbying pour nous. C'est porter notre vision. On le fait de façon transparente et des fois on propose des amendements et régulièrement aussi on irrigue d'informations et de sur la profondeur des sujets les parlementaires.
D'accord. Avec le patronat, on en parlait il y a un instant, ça se passe comment? Vous parliez effectivement de compromis, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas selon les périodes. J'imagine aussi qu'à force, vous commencez à bien vous connaître. Est-ce qu'on arrive à sortir des enjeux personnels? Est-ce qu'on arrive à sortir aussi des guerres de position, j'allais dire, et effectivement à trouver des compromis?
Il y a des hauts et des bas, c'est sûr. Il y a des fois le patronat, pour dire les choses, est parfois dans une logique de lobbying. Et donc, assez peu de négociations. Et puis, il y a des moments où on arrive à poser les enjeux. Par exemple, en ce moment, moi, je plaide beaucoup pour qu'on agisse de concert sur les discriminations d'accès à l'emploi, qui est un vrai problème. Et là, on aura des choses à faire, d'actions positives à mener. Et donc, c'est plus entendable aujourd'hui par le patronat qu'il y a encore quelques mois. Ceci étant, il n'y a pas d'enjeu de personne. Il ne faut pas rentrer dans les enjeux de personne. On est tous de passage. On n'est pas appuyé personnel, on est représentant d'un collectif d'adhérents, de sections syndicales dans les entreprises. Et donc, il faut sortir de cette logique de relations, non pas interpersonnelles, parce qu'elles existent pour le coup, puisqu'on se voit, on travaille ensemble, mais de relations d'intérêt personnel. Donc, la qualité humaine des interlocuteurs compte énormément. On peut assumer tout désaccord lorsqu'il y a... discussion franche, loyale, respect. Voilà, c'est la démocratie, elle souffrirait qu'il n'y ait pas de confrontation d'intérêts différents. Ce qui fait démocratie, c'est que les intérêts différents qui traversent une société, donc là, le monde du travail, ils puissent se confronter positivement pour faire émerger des solutions. Et donc, moi, je n'ai pas d'ennemis. J'ai aucun ennemi dans mes interlocuteurs tels qu'ils sont aujourd'hui, mais parfois, j'ai des adversaires en termes d'idées. Bon, c'est la persuasion, c'est la qualité des propositions, c'est aussi un peu de pratique de négociation qui fait avancer les choses.
Et pour finir sur ce point, justement, ça pensait à un débat récurrent qu'on entend surtout aujourd'hui porté par des courants politiques, qui est la question de la convergence des luttes. C'est-à-dire, est-ce que finalement, par rapport à un pouvoir en place, il faudrait essayer de constituer un grand front avec un maximum d'acteurs et en attaquant sur tous les sujets à la fois? Ou est-ce qu'au contraire, ça c'est un peu ce qu'on entend par convergence des luttes, ou est-ce que c'est plus efficace selon vous de choisir précisément ces combats, ces sujets, et de créer à chaque fois des alliances spécifiques? Comment la CFDT se situe dans ce type de discussion?
D'abord, moi j'ai coutume de dire que la combativité d'un syndicat, d'une organisation syndicale, c'est pas que la présence dans la rue, c'est aussi la qualité de ses propositions, c'est de faire pression, c'est d'argumenter. Mais... nous, on est plutôt partisans de mobilisation spécifique sur des sujets précis. Je prends deux exemples. Ces derniers mois, on s'est beaucoup mobilisé avec les salariés des EHPAD, les établissements pour les personnes âgées, qui souffrent énormément d'un manque de moyens de travail difficile et puis de conditions des personnes âgées pas correctes. Eh bien, nous, on a fait des manifestations sur ce sujet-là. On a obtenu un certain nombre d'avancées, trop peu, donc on continue de le faire. Voilà, ça, c'est les actions ciblées. Le deuxième, c'est que récemment, il y a eu une discussion sur la stratégie pauvreté. À la CFDT, elle a décidé d'agir avec d'autres du secteur associatif pour faire valoir un certain nombre de propositions qui font qu'à la fin, on n'est pas satisfait sur tout, loin s'en faut, mais il y a un certain nombre d'avancées. Donc, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas non plus, parce qu'il y aurait une mesure inacceptable, contester cette mesure par un mouvement un peu global dans la rue. Mais moi, je ne veux pas que le syndicalisme y soit ramené simplement à une visibilité seulement le jour où il est présent dans la rue, parce que c'est beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus important que ça, finalement, ce qui se passe dans des mobilisations sectorielles, dans la capacité à porter des idées.
Merci beaucoup. On va faire une nouvelle pause et on parlera ensuite des liens entre les syndicats et les citoyens. On fait une nouvelle pause cette fois avec NoFX. Montez le son, les amis, c'est Laurie Meyers. bien sur Radio Campus 90.8, c'est la Fabrique politique. Aujourd'hui, on parle de syndicalisme avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Alors, on a parlé syndicalisme et politique. Je voudrais poser maintenant la question du rapport aux citoyens du syndicalisme. Donc, je citais en introduction une étude qui constatait la baisse des vocations syndicales en France. Alors, je sais que c'est pas forcément valable pour la CFDT, mais c'est un mouvement global. Comment, alors peut-être vous pourrez nuancer, mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez cette baisse générale des vocations? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où ça vous paraît plus frappant et préoccupant?
Ah, d'abord, le syndicalisme, il souffre d'un taux, d'une image qui est pas bonne, qui est parfois caricaturale. Parfois, le syndicalisme se caricature lui-même aussi. Et donc, je crois qu'il faut redire sans cesse ce à quoi il sert et ce qu'il obtient. Moi, je voudrais juste qu'on ait 30 secondes un monde du travail où il n'y aurait pas de syndicat. Ce que chacun s'imagine dans une entreprise, là où il y a un syndicat, si le syndicat n'était pas là, bien la situation serait bien plus difficile. Donc, il faut, je crois, nous, qu'on montre davantage ce qu'on obtient. Le deuxième point, c'est que il faut que le syndicalisme il sorte d'une vision binaire. Les choses sont complexes, les secteurs professionnels sont différents les uns des autres, et donc il faut être capable d'aller au fond du sujet de chaque profession pour améliorer les choses. Et puis ensuite, je crois qu'il faut qu'on montre que le syndicalisme il a de multiples combats qui peuvent donner envie à des jeunes de s'y investir. Moi, je pense en ce moment à ce qu'on fait sur la transition écologique, sur la lutte contre la pauvreté, sur l'accueil des travailleurs migrants ou des migrants tout court. Je pense qu'il faut qu'on montre qu'on est connecté aux enjeux du pays, de la société, et qu'on a toute une palette d'actions où il est possible de s'inscrire quand on a envie de s'engager.
Mais pour quelqu'un qui s'engagerait là au quotidien, comment il peut faire le lien entre son travail de représentant syndical au quotidien dans son entreprise et ce que vous venez de dire à l'instant, à savoir cette capacité de grands syndicats comme le vôtre à travailler sur des sujets plus sociétaux ou plus globaux comme l'environnement, la pauvreté, etc. Comment il arrive à faire le lien entre les deux?
D'abord, il faut dire qu'on peut être adhérent à la CFDT et engagé à la CFDT sans être représentant dans son entreprise.
Ah oui.
Parce qu'on a des groupes de travail le soir, le week-end, sur un certain nombre de sujets où on peut apporter sa pierre sans vouloir ou sans pouvoir, des fois, être représentant dans son entreprise.
D'accord.
Je crois que c'est important de le dire parce que ça donne sens. Ouais. Et puis après, les représentants dans l'entreprise, eux, sur la question de la transition écologique, ils peuvent l'inscrire totalement dans la stratégie qui est celle de leur entreprise. Ils peuvent apporter aussi d'un niveau territorial. On est en ce moment en train de proposer, nous, un contrat de transition écologique. C'est une idée CFDT et WWF, sur le bassin de Fos-sur-Mer, qui est un bassin très pollué avec beaucoup de maladies chroniques, beaucoup de cancers. Et bien là, le militant CFDT qui aurait envie de s'y investir, il pourra participer aux réflexions, aux travaux qui sont menés. Nous, on est dans une logique de développer davantage le service à nos adhérents et la possibilité pour chacun d'eux, s'il le souhaite, de s'investir, d'apporter sa pierre. Mais fût-elle modeste, je crois que c'est important.
Et est-ce que vous essayez de recruter, en fait, des campagnes de recrutement ou d'essayer d'aller chercher des forces vives, des jeunes notamment, dont vous parliez? Est-ce que la CFDT est proactive dans ce sens ou c'est plutôt les gens qui viennent à vous?
Non, les générations spontanées, elles existent, mais elles sont faibles en termes de nombre. Nous, on va vers, il faut aller vers. On a des campagnes spécifiques. Notamment en direction, par exemple, des jeunes apprentis. Il faut savoir que la CFDT, tous les ans, a fait environ 70 000 adhérents.
Tous les ans, d'accord.
Eh oui. Tous les ans, mais le problème, c'est qu'avec le baby-boom, on en perd 65 000. Même si on peut rester adhérent quand on est retraité, mais enfin... la question, elle est à la fois une fidélisation de nos adhérents, mais aussi d'aller vers les publics nouveaux. Par exemple, nous, on a décidé maintenant de syndiquer les travailleurs indépendants.
Ah oui. Vous savez, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant.
Non, on avait commencé depuis 4-5 ans, mais là maintenant, on a décidé collectivement d'investir beaucoup dans cette voie. On est de plus en plus présent dans tous les métiers des services. Notre plus grande fédération aujourd'hui à CFDT, c'est la fédération des services qui regroupe les cafés, restaurants, le nettoyage, la surveillance, etc. Il faut des campagnes spécifiques, il faut intéresser les gens, il faut apporter des propositions, il faut démonter l'image un peu surannée qu'on a du syndicalisme. Il faut porter des valeurs et jamais en dériver. Voilà, et donc il y a des gens qui nous attendent, on le voit à chaque fois qu'on fait une campagne, des gens nous rejoignent, mais il faut, on s'est fixé un objectif de faire plus 10% sur, d'ici le prochain congrès, donc on s'y emploie. Mais pour ça, il faut redonner du sens au collectif d'un pays qui en a perdu un peu.
D'où effectivement la question de d'essayer de relier des problématiques très locales avec des problématiques globales. Vous preniez l'exemple tout à l'heure de la question des migrants. Ça s'est traduit comment concrètement la manière dont vous avez travaillé ce sujet pour donner une illustration un peu aux personnes qui nous écoutent. Quand la CFDT travaille sur la question des migrants, ça se passe comment?
D'abord, ça se passe pour dire que on veut pas vivre dans un pays qui se refermerait sur lui-même et qui serait sourd aux difficultés humaines vécues par des gens qui essayent de fuir la misère, les guerres, etc. Donc ça veut dire un message politique au sens noble du terme. Ça veut dire des actions concrètes pour porter des propositions sur l'évolution des politiques migratoires et des règles migratoires aujourd'hui en France et en Europe. Donc on est très investi sur cette question-là aussi à la CES, mais pour par exemple porter des propositions sur le droit d'asile, sur le règlement de Dublin, voilà. Et puis ensuite des actions très concrètes de développement de formation pour les migrants pour l'insertion professionnelle. On a développé des dispositifs qui s'appellent les duos de demain, où des militants CFDT à titre bénévole ont un contact humain amical avec des personnes migrantes. Ça se fait en dehors du temps de travail pour apprendre à connaître la région, un certain nombre d'habitudes, faire des loisirs ensemble, etc. Et puis, on a développé aussi des actions sur l'emploi, par exemple à Nantes ou en région parisienne, pour aider des personnes migrantes à s'insérer, à obtenir des papiers, puis ensuite à s'insérer professionnellement.
Et ça, c'est des sujets sur lesquels vous diriez que c'est plutôt facile, voire même étonnamment facile, de trouver du monde pour venir à vous, ou c'est plutôt quelque chose qui est un peu difficile et qu'il faut labourer longtemps avant d'avoir des relais?
Pour être très cash, c'est un sujet sur lequel la CFDT, elle le fait pour des questions de valeur et aucunement pour des questions électoralistes, parce que c'est pas forcément très porteur électoralement. Mais nous, on veut pas renoncer à nos valeurs. On est persuadé que si on le renonce, on va devenir n'importe quoi. Donc on est ferme là-dessus. Et par contre, on trouve beaucoup de militants pour faire ce boulot-là, ouais, parce que il y a quand même beaucoup de militants qui sont sensibilisés à cette question-là. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire sur ce terrain-là ou sur un autre qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui est la discrimination à l'emploi dont souffrent beaucoup de jeunes et pour lesquels on pourrait faire beaucoup plus.
On va devoir en finir avec cet entretien. Merci beaucoup. Une dernière question. Comment vous imaginez la CFDT dans une dizaine d'années, les grandes évolutions que vous sentez poindre et que vous essayez de porter vous-même dans votre mandat?
Une CFDT, nous on essaie de créer une CFDT très horizontale. C'est-à-dire beaucoup d'entraide et de communication entre les adhérents eux-mêmes, sans passer par la Confédération ou une quelconque structure. Une CFDT qui est toujours investie sur les questions de valeurs européennes, de solidarité humaine, etc. Et puis, qui se recentre à mort, j'ai envie de dire, sur la question du travail, la façon dont les gens vivent leur travail. Parce que c'est ça qui fait sens à un moment donné, c'est quand on est bien au travail, on est mieux dans la société. On est mieux, on est plus tolérant à la différence, etc. Et je crois qu'il y avait un vieux slogan de la CFDT qui disait « Pour changer la société, il faut changer le travail ». Et je pense que c'est la voie qu'on va poursuivre encore. Et c'est comme ça qu'on progressera.
Merci, merci infiniment Laurent Berger. Merci pour votre temps et pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Pour nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la chronique « Pendant ce temps » à Veracruz, après une dernière pause musicale. Nick Cave et Pete Gervais qui chantent ensemble, c'est beau, et ça s'appelle Henry Lee.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world. There will come. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world.
and I won't get down and stay all night with you. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La 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 la, la 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 la.
Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home.
And the wind did howl, the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird looked down on him.
Alors, aujourd'hui, pour la chronique Pendant ce temps à Veracruz, deux articles sur le mouvement de grève chez Ryanair, d'abord vu d'Allemagne, puis de Pologne. Alors, vu d'Allemagne, enfin la grève chez Ryanair, titre le Frankfurter Rundschau en juillet 2018. La compagnie aérienne fait face à des mouvements de grève de 24 heures de ses pilotes en Irlande et de son personnel de cabine dans plusieurs pays européens. Un conflit que l'on attendait depuis longtemps, se félicite un quotidien allemand. Des centaines de vols annulés, des prévisions très incertaines. En plein conflit social avec ses salariés dans différents pays européens, Ryanair continue de ne plus assurer une partie de ses vols. Ce vendredi 20 juillet, la compagnie aérienne à bas coût a annulé 24 vols entre l'Irlande et les États-Unis, etc. Cette crise sociale dans l'entreprise, vieille de 32 ans, s'explique en partie par la reconnaissance par la direction au compte-gouttes et depuis décembre 2017 de syndicats dans plusieurs pays européens. Le dernier en date étant l'Allemagne, où Ryanair a reconnu l'organisation syndicale Verdi ce 20 juillet. Depuis, les plaintes critiquant les mauvaises conditions de travail ont des conséquences concrètes sur l'entreprise. Pour le quotidien allemand Frankfurter Rundschau, solidement ancré à gauche, ce mouvement de grève était nécessaire depuis longtemps. Pendant bien trop longtemps, dit-il, les salariés ont accepté des bas salaires et des statuts forcés de travailleurs indépendants. Nombreux craignaient des représailles. Les jeunes pilotes acceptaient un poste précaire pour enfin réaliser leur rêve. Espérons donc que les grévistes tiendront bon. Leur ténacité permettrait d'améliorer les conditions de travail et la concurrence et de concurrence dans tout le secteur. Et puis en Pologne, maintenant, quelques semaines plus tard, en septembre 2018, un article de Romain Su, d'un média polonais, qui dit « Le personnel polonais de Ryanair possède désormais un syndicat ». Bravant l'interdiction en vigueur dans la compagnie, car en Pologne ce n'était pas encore autorisé, le personnel polonais du plus grand transporteur aérien d'Europe a désormais son syndicat, même s'il ne se rallie pas pour autant aux grèves organisées par les employés des autres pays. Confronté depuis la fin de l'année 2017 à des mouvements sociaux, puisqu'il a autorisé les syndicats, enfin, Michael O'Leary, le patron de la compagnie aérienne à prix cassé Ryanair, avait cet été menacé lui-même les grévistes d'accélérer la délocalisation de leur emploi vers la Pologne. À la différence de leurs collègues allemands, belges, espagnols, italiens et irlandais, les salariés polonais du transporteur européen semblaient en effet se tenir à l'écart de la vague de contestation. Mais ce n'est plus le cas, puisque depuis le 12 décembre, ils ont donc réussi à faire enregistrer leur syndicat, après 6 mois d'efforts. La raison de cette longue attente est prosaïque. Jusque-là, Michael O'Leary refusait tout simplement la création de syndicats dans l'entreprise en Pologne. Sur le plan juridique, la syndicalisation du personnel polonais était aussi compliquée par le fait que seuls 10% des hôtesses et des stewards ont un contrat de travail, les autres étant en mode auto-entrepreneur. D'ailleurs, un autre salarié interrogé par le journal souligne que les revendications du syndicat ne sont pas les mêmes que celles des équipages d'Europe de l'Ouest, car les règles d'embauche sont différentes. Nous voulons avant tout des augmentations de salaire. En moyenne, une hôtesse polonaise est payée 30% de moins que, par exemple, sa collègue espagnole. Pour l'heure, le nouveau syndicat ne prévoit donc pas de participer à la grande grève européenne du 28 septembre, mais cela illustre le mouvement conquérant du syndicat progressivement dans ce secteur qui en était dépourvu. Voilà, c'est la fin de la fabrique politique de ce jour. Un immense merci encore à Laurent Berger de nous avoir accompagnés sur cette découverte du syndicalisme. Vous retrouvez cette émission en podcast, comme d'habitude, sur le site de Radio Campus. Et moi, je vous dis à très bientôt.